9h18 et maintenant nous recevons Raphaël, Romy, Mathis et William du cours de communication orale qui viendra nous faire une petite chronique sur l'intelligence artificielle. On va commencer avec Raphaël. Salut, ça va bien?
Oui, toi?
Ben oui, très bien, tu peux commencer.
Ben merci de nous recevoir. Je vais commencer en fait en vous posant une question à tous. Je ne sais pas si vous vous souvenez de vos moments d'apprentissage en tant qu'adolescent où apprendre, ça voulait dire chercher, réfléchir, se tromper et recommencer. Aujourd'hui, pour un adolescent, apprendre passe souvent par une toute autre démarche. Une question traverse son esprit. En quelques secondes, ChatGPT lui donnera la réponse sans qu'il ait utilisé son propre raisonnement analytique ou son jugement réflexif. Et c'est là que surgit un enjeu important. Si une IA peut répondre à toutes leurs questions, à quoi bon d'apprendre ou de penser par soi-même? Plusieurs institutions, dont l'Institut Polytechnique de Paris, ont récemment mené une recherche sur le lien entre l'usage de ChatGPT et le fonctionnement intellectuel des adolescents et des jeunes adultes. Puis, leur constat était clair. Le cerveau d'adolescent, encore en plein développement cognitif, s'adapte rapidement à cette nouvelle manière d'apprendre. Une utilisation accrue de l'intelligence artificielle viendrait altérer complètement le raisonnement critique, même à court terme, et influencer la capacité à analyser et à chercher par eux-mêmes. Dans une phase aussi fondamentale du développement du cerveau humain, changer la manière de penser, de raisonner et de comprendre le monde peut avoir des conséquences sérieuses, telles qu'une atrophie cognitive généralisée. Ce terme technique-là représente une diminution réelle de la taille du cerveau, donc une perte de masse cérébrale qui touche certaines parties ou même la totalité du cerveau, liée à la mémoire et à la planification. Une autre recherche, menée par un professeur émérite de l'Université Marie et Louis Pasteur en France, révèle d'autres effets inquiétants. Les adolescents et jeunes adultes qui utilisent ce type d'outils largement risquent une diminution de l'effort intellectuel nécessaire pour transformer une information en connaissance. Plus précisément, les individus aidés par ChatGPT ont beau avoir rédigé 60 % plus rapidement, mais leur charge cognitive pertinente, donc l'effort mental nécessaire pour intégrer de nouvelles connaissances, a chuté de 32 %. Le résultat, plus de 83 % des utilisateurs étaient incapables de se souvenir d'un passage qu'ils venaient tout juste d'écrire. Puis ces tendances-là soulèvent une crainte majeure, où l'avenir de la pensée critique, du bon jugement, de la mémoire et de la créativité de nos futures générations se fragilise. Mais il n'est pas trop tard. À la place de diaboliser l'IA, il faut apprendre à la dompter, à en faire un outil d'aide et non un substitut de la pensée. Autrement dit, il faut rester le maître de l'IA et non son élève.
Merci. Romy, tu peux commencer?
Oui, allô. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'impact de la télévision québécoise et du même fait sur l'identité québécoise. On va commencer par juste imaginer un téléroman québécois écrit par une machine. Une IA qui copie les dialogues de District 31 et qui invente des intrigues à la Michel Tremblay. Ça, c'est pas de la science-fiction, c'est maintenant qu'on fait face à cet enjeu, puis c'est maintenant qu'on doit mettre en place des solutions. L'intelligence artificielle entre dans nos studios puis dans nos scénarios. Mais il y a une question qui se pose. Est-ce qu'on risque de perdre un morceau de notre culture? Au Québec, la télé, c'est plus qu'un divertissement, c'est un miroir de qui on est. Nos expressions, nos accents, nos histoires, c'est ça qui nous unit. Mais là, l'IA change la donne. En effet, des plateformes peuvent produire des séries à plus bas coût, sans nos auteurs ni nos acteurs. Des épisodes québécois faits à partir de données et non d'émotions. Tranquillement, notre culture pourrait être imitée plutôt que créée chez nous et par nous. Déjà, des artistes s'inquiètent. Leurs voix peuvent être clonées, leurs textes peuvent être repris, leurs idées peuvent être recyclées et tout ça sans la moindre permission. L'enjeu, c'est pas juste artistique, comprenez-moi bien, c'est aussi économique. Parce qu'en utilisant des outils d'IA, certaines productions peuvent réduire leurs coûts et donc mettre moins de gens au travail. Moins de scénaristes, moins de comédiens, moins de techniciens, puis on arrive au même résultat. Les syndicats, comme l'UDA, réclament une chose assez simple. Que la créativité humaine reste protégée. Pourquoi? Parce que derrière chaque réplique, chaque accent, il y a une réelle expérience qui est vécue, une sensibilité, puis d'après moi, ben c'est ça notre identité. L'enjeu est clair. Comment garder une télé québécoise authentique quand les frontières entre le vrai et le virtuel s'effacent tranquillement? Comment on peut contribuer à faire vivre notre culture si les algorithmes décident de ce qui est populaire ou qu'est-ce qui est rentable? L'IA peut imiter, c'est sûr, mais jamais vraiment vivre ce qui est québécois. Elle ne peut pas ressentir les expressions québécoises comme un bon vieux « ben voyons, toi ». L'intelligence artificielle peut écrire des scénarios. Mais elle ne connaît pas la neige de janvier ni la nostalgie d'un bon vieux bye-bye du nouvel an. Ça, je le pense pas. La culture québécoise, selon moi, c'est imparfait, mais c'est surtout vivant. Alors oui, l'IA est inévitable, mais notre identité mérite d'être écrite par nous-mêmes. Une culture, on peut s'entendre que ça se programme pas, ça se vit, ensemble, et ça, il n'y a personne qui peut nous l'enlever. Même pas une révolution comme celle de l'IA.
Ben, merci. Maintenant, ça va être le tour de Mathis.
On avait cette tâche de parler de l'IA, mais aussi de quelque chose qui nous passionne. Puis moi, dans la vie, ce qui me passionne, c'est le soccer européen. Puis récemment, un joueur anglais a fait parler de lui pour une raison qui est assez peu naturelle. Donc, je vous raconte tout ça. Imaginez que vous êtes un joueur ou une joueuse de soccer professionnel, puis vous recevez une offre d'un club. Puis au lieu d'appeler votre agent, votre famille, vos proches, vous décidez d'ouvrir ChatGPT. C'est pas une blague, c'est exactement ce qu'a fait Dimitri Mitchell, un joueur anglais qui évolue en 3e division. Il a décidé de tester quelque chose de complètement nouveau, négocier son contrat professionnel avec une IA. Pour résumer l'histoire rapidement, Dimitri Mitchell jouait pour Exeter City, puis le club de Leyton Orient lui a fait une offre, mais au lieu de passer par un agent, il s'est dit « si je demandais à ChatGPT comment répondre? » Donc, il décide de lui écrire des trucs comme « comment est-ce que je peux négocier un meilleur salaire? »« Qu'est-ce que je devrais demander pour le logement? »« Les primes? »« Les bonus? » Puis ChatGPT, tranquillement, il lui sort un plan de match. Il lui donne des arguments, des exemples de messages, même une estimation du salaire moyen pour la division dans laquelle il joue. Donc, Mitchell applique ça, il renvoie ses réponses et ça fonctionne, contre-signé. Donc, pour finir cette petite histoire-là, le joueur a même déclaré cette phrase très sérieusement et je cite « ChatGPT a été mon meilleur agent ». Bon, c'est sûr qu'un vrai agent a peut-être levé un sourcil en entendant ça, mais quand on y pense, c'est assez malin. Les agents prennent souvent autour de 5% du salaire d'un joueur. ChatGPT, lui, il coûte quoi? Environ 15$ par mois pour la version premium. C'est sûr que sur le plan financier, on peut dire que ChatGPT a marqué un but. Mais ce qu'il y a d'autre à retenir de cette histoire, c'est ce que ça dit sur notre époque. On commence à faire confiance à la technologie pour des décisions qui étaient avant très humaines. Puis dans le monde du sport où tout bouge vite, ça change la donne. Un joueur maintenant peut analyser son contrat, il peut comprendre ses droits, puis se sentir plus autonome en général dans sa carrière. Bien sûr, il ne faut pas non plus en faire tout un plat. ChatGPT, ça ne remplace pas la vraie négociation, ça ne remplace pas le petit café que le joueur aurait pris avec le directeur sportif, mais il peut aider à préparer le terrain puis mieux se positionner dans des négociations. Puis bon, au final, peut-être que c'est ça, le vrai changement. Pas nécessairement une révolution technologique, mais une nouvelle façon de se faire confiance en utilisant la technologie comme un allié plutôt qu'un remplaçant. Dimitri Mitchell, il a peut-être pas réinventé les négociations dans le soccer, mais il a montré qu'avec un peu d'audace, l'intelligence artificielle peut aussi jouer un rôle dans les décisions les plus humaines.
Merci. Maintenant, c'est le temps à William.
Yes, salut. Moi, aujourd'hui, je vais parler de l'intelligence artificielle comme mes trois collègues l'ont fait, mais je vais parler dans le milieu de la politique. Avec l'intelligence artificielle, on sait que ça s'impose progressivement dans le domaine politique, puis c'est la manière, elle influence la manière dont les partis font campagne, comment les électeurs s'informent, puis même comment les décisions publiques sont prises. L'IA est déjà un acteur discret mais puissant dans nos démocraties. Les partis politiques utilisent maintenant l'intelligence artificielle pour analyser les données des électeurs, comportements sur les réseaux sociaux, historique de navigation, réactions à certains sujets. Ces informations permettent de cibler des segments précis de population avec des messages personnalisés. On appelle ça du micro-ciblage politique. Par exemple, une personne préoccupée par l'environnement ne verra pas les mêmes publicités qu'un électeur intéressé par l'économie. Cette personnalisation-là rend la communication plus efficace, mais elle fragmente aussi le débat public, parce que chaque citoyen reçoit une version différente d'un même discours politique. L'IA joue également un rôle croissant dans la désinformation. Hein, on connaît tous le deepfake qui permet de créer des vidéos ou des enregistrements audio entièrement falsifiés. Des politiciens peuvent être montrés en train de dire ou faire des choses qu'ils n'ont jamais faites ou dites. Par exemple, Donald Trump a même déjà utilisé lui-même l'IA pour se mettre en valeur dans des vidéos de lui qui pilotait un avion de chasse au-dessus des États-Unis. Ces contenus se propagent très vite en ligne, surtout pendant les campagnes électorales. Ça peut même influencer l'opinion publique avant que la vérification des faits ait lieu. Certaines institutions publiques testent des systèmes d'aide à la décision fondés sur l'IA, par exemple pour la gestion des ressources, la sécurité ou la planification urbaine. Ces outils-là peuvent rendre l'administration plus efficace, mais ils posent une question essentielle, en fait. Jusqu'où on va laisser les algorithmes orienter les choix politiques? L'intelligence artificielle transforme déjà beaucoup la politique, parfois sans que les citoyens s'en rendent compte. Elle offre des nouvelles possibilités de communication, mais aussi de manipulation. Les défis des prochaines années vont être de trouver un équilibre entre innovation technologique puis transparence démocratique. Autrement dit, faire en sorte que l'IA reste un outil au service du citoyen et non le moyen de le contrôler.
Merci beaucoup, puis merci à vous tous pour vos chroniques. C'était très intéressant. Merci. Et puis pour nous, on se laisse sur une courte pause musicale. Après ça, on revient avec l'entrevue du Salon du Livre.